hélas, pas vraiment. Prévôt au Chiapas depuis quelques années un statu quo plutôt négatif pour les populations indigènes et en particulier pour les populations indigènes rebelles. Donc ce mouvement zapatiste qui s'est soulevé il y a une vingtaine d'années maintenant est toujours en rébellion, dans une position d'autonomie à l'égard des autorités mexicaines. Ils ont coupé toutes les relations, tous les ponts avec l'État mexicain et ils tentent de vivre sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan politique, en complète autonomie avec le reste du monde, le reste de l'État d'une certaine façon.
Et est-ce qu'ils y parviennent vraiment?
La situation est difficile, évidemment. Le mouvement zapatiste a engrangé certaines réussites, mais la situation sociale, la situation économique reste très difficile. Les indigènes du Chiapas sont toujours les perdants de ce qu'on a appelé il y a quelques années le miracle mexicain. L'État du Chiapas est un État très, très, très riche en ressources naturelles, mais la population indigène, donc plus ou moins un tiers de la population totale du Chiapas, la population indigène est la population la plus pauvre de l'État. Quand on regarde tous les indicateurs sociaux de la population dans cet État, ce sont les indigènes, mayas en majorité, qui sont au bas de l'échelle. C'est dans les régions indigènes que l'on trouve les plus faibles taux de scolarisation. C'est dans ces régions que l'on trouve donc les plus hauts taux d'analphabétisme et même de dénutrition. Donc la situation sociale, l'apartheid social qui tend à prévaloir dans le Chiapas ne s'est pas réellement modifié ces dernières années. Sur certains aspects, les différences, les inégalités se sont même approfondies.
De ce point de vue-là, est-ce qu'on peut parler d'un échec du mouvement zapatiste?
En tous les cas, d'un non-aboutissement de leur lutte. Ces zapatistes, ces indigènes se sont soulevés en revendiquant la démocratie, la liberté et la justice. Aujourd'hui, faute de réponse de l'État à leurs revendications, ils ont décidé d'organiser eux-mêmes ce nouveau monde auquel ils aspirent en tentant de vivre en autonomie. Mais le rapport de force leur reste tout à fait défavorable. Souvenez-vous que fin des années 90, l'État mexicain a signé des accords avec le mouvement indigène, des accords sur les droits des indigènes, sur la reconnaissance de la culture indigène. Mais c'est en raison du fait que ces accords aux yeux des indigènes, aux yeux des mayas, aux yeux des zapatistes n'ont jamais été appliqués, n'ont jamais été respectés comme tels, que les zapatistes ont décidé de construire eux-mêmes le nouveau monde auquel ils aspirent, sans plus attendre de l'État, sans plus attendre des autorités que ces accords soient appliqués. Donc, quelque part, cette situation d'autonomie qu'ils essayent de vivre aujourd'hui est déjà l'aveu d'une défaite dans leur rapport de force avec les autorités. Et encore une fois, cette situation d'autonomie qu'ils tentent de construire contre vent et marée, donc dans un climat social, économique, politique et militaire même défavorable, reste très précaire.
Quant aux responsabilités de ce non-aboutissement, est-ce qu'il faut rejeter la faute à l'État fédéral mexicain ou bien aux autorités locales du Chiapas?
Aux deux d'une certaine façon. L'État du Chiapas a longtemps été un État en retard sur le reste du Mexique. Ses structures sociales étaient jusqu'il y a peu d'un certain féodalisme archaïque. Aujourd'hui, cet État est pénétré par une série d'acteurs mexicains ou transnationaux, des acteurs capitalistes qui développent ce qu'on appelle là-bas un capitalisme de prédation. Donc de grandes entreprises viennent exploiter les ressources naturelles du Chiapas. C'est le pétrole, c'est le gaz, c'est l'énergie hydroélectrique, c'est le café, etc. Et pas forcément à l'avantage des populations qui vivent sur place. Les responsabilités sont donc nationales, mais aussi à la hauteur de l'État du Chiapas. Le parti au pouvoir dans le Chiapas aujourd'hui est un parti écologiste officiellement, mais qui est très proche du parti au pouvoir à l'échelle fédérale, le Parti révolutionnaire institutionnel.
Alors le problème général est sous-jacent, et ce depuis, je dirais, presque toujours au Chiapas, c'est concernant les indigènes. Et quel est-il exactement? C'est un accès à la terre? C'est uniquement sur la reconnaissance de droits à la fois culturels et politiques pour les indigènes?
Il y a un double problème, un problème d'exploitation économique, mais aussi un problème de discrimination sociopolitique. Le problème d'exploitation économique est sans doute moins fort aujourd'hui qu'il ne l'était auparavant, du fait que dans certaines régions du Chiapas, les indigènes eux-mêmes ont occupé des terres de grands propriétaires pour lesquels ils travaillaient auparavant. Et dans une autre région où la mobilisation zapatiste est relativement forte, Il n'y a plus non plus de grands propriétaires. On est dans une situation où la population indigène est surnuméraire par rapport à une terre insuffisante. Mais par contre, cette situation de discrimination, de ségrégation continue à prévaloir. En tous les cas, dans les faits, ce n'est évidemment inscrit nulle part que l'indigène est un citoyen de seconde zone. Mais dans les faits, dans la réalité, tout indique que cette ségrégation, cette discrimination continue à prévaloir. Sur le plan symbolique, notamment, un indigène ne pèse pas autant qu'un non-indigène. Il suffit de regarder les citoyens du Chiapas qui se croisent dans les rues de San Cristobal de Las Casas. L'indigène croisant un non-indigène, c'est l'indigène qui descendra du trottoir pour laisser passer le non-indigène. Cette situation-là évolue tout doucement, mais continue tout de même à prévaloir. D'une certaine façon, l'organisation du tourisme dans l'état du Chiapas, on a affaire à un état très touristique, révèle cette discrimination, révèle cette ségrégation. Les indigènes constituent le décor humain, très apprécié par les touristes évidemment, de l'organisation du tourisme dans le Chiapas, mais n'en sont pas les premiers acteurs, ne bénéficient pas en premier lieu des retombées touristiques.
Est-ce que, selon vous, le Chiapas concernant le Mexique est un cas unique et isolé, ou est-ce qu'il est symptomatique globalement du pays et de sa société ?
Ce qui se passe au Chiapas, évidemment, est révélateur de l'état de la société mexicaine, mais d'une façon sans doute un peu plus caricaturale de la façon dont ça se passe dans le reste du Mexique. L'état du Chiapas, c'est un des 32 états du Mexique. C'est à la fois le plus pauvre, c'est à la fois l'un des plus inégaux, malgré, encore une fois, la richesse de cet État qui fournit au reste du Mexique, par exemple, la moitié de son énergie hydroélectrique, un tiers de sa production de café, un tiers également de son gaz naturel. Donc on a affaire à un État très riche qui joue un rôle important dans l'économie mexicaine, mais dont une grosse partie de la population du Chiapas, les retombées économiques de la richesse de leur État ne leur profitent pas. En cela, le Chiapas est caractéristique de l'ensemble de la société mexicaine, mais d'une manière sans doute un peu plus exacerbée. Le Chiapas, c'est aussi l'État frontalier du Guatemala, et donc les questions de migration sont également centrales dans cet État. C'est toute la migration latino-américaine et centro-américaine qui se presse là et qui passe par le Guatemala pour rentrer au Mexique par le Chiapas. Et il faut ajouter à cette migration latino-américaine, la migration des Chiapanais eux-mêmes. Beaucoup d'indigènes aujourd'hui tentent de migrer vers les États-Unis. On estime que plus ou moins 500 000 Chiapanais aujourd'hui vivent aux États-Unis. En cela, donc, le Chiapas est un petit Mexique à lui tout seul, mais sans doute un Mexique exacerbé dans ses défauts et dans ses inégalités.